Terrain de jeu, eh bien, ce sera le centre-ville avec les lieux emblématiques de Rennes. Daniel Gelin est l'organisateur de cet Urban Trail.
Le but, c'est de découvrir la ville au niveau sportif, mais également culturel, parcourir les rues et les différents monuments. Et ça le premier Urban Trail a été créé à Lyon il y a 8 ans. Et c'est vrai que c'est différent de courir que sur le bitume plat ou avec légèrement des montées et des descentes. Là, on va entrer dans des monuments, on va monter des marches, on va dire descendre. Par exemple, 24 km, il y aura 1500 marches à monter et descendre. Entre les marches du Roizen Park, monter les marches au Tabor, les redescendre, l'hôtel de ville, passer dans l'opéra, courir sur le théâtre, la scène de l'opéra, descendre dans le métro, monter, descendre, aller également dans le parking de l'esplanade de Gaulle, donc dans les souterrains également, donc dans des endroits où que les gens n'ont pas du tout l'habitude de courir évidemment et qui vont découvrir.
Et le premier départ, c'est à 9h30 tout à l'heure sur le mail François Mitterrand. Un mot de volley avec la Ligue B hier soir. Sachez que Cambrai s'est imposé 3-7-2 face au Rennes Volley 35.
Et puis c'était un poisson d'avril.
Eh oui, Christophe Lemaître ne sera pas à Rennes pour l'inauguration de la ligne à grande vitesse. Il ne tentera pas non plus de courir 100 mètres face à un TGV qui s'élance. C'était effectivement notre poisson d'avril. Un grand merci à notre imitateur Laurent Chandemerle. Un grand merci aussi à la SNCF et à Michel Cabaret de l'Espace des Sciences à Rennes qui ont joué le jeu pour nous.
Retrouvez toute l'info de France Bleu
sur francebleu.fr.
Vous avez cru ?
Moi j'ai cru.
C'était pas mal, on a bien rigolé.
C'était bien. Et en tout cas, bon, on reparlera du TGV avec son arrivée. Il y aura sans doute
Il y aura bien une inauguration, en revanche, et des événements.
Voilà, donc c'est pas une blague, la TGV, ça c'est sûr.
La météo, Daniel.
C'est pas une blague non plus. On va avoir du soleil, même si vous en doutez ce matin, avec beaucoup de nuages en début de journée sur l'Ille-et-Vilaine et les Côtes d'Armor. Alors que pour le Morbihan, déjà, les éclaircies se dessinent. Ces éclaircies vont gagner le nord. Elles vont se développer au fil des heures. Et même si une ondée est possible sur l'est de l'Ille-et-Vilaine cet après-midi, eh bien, on devrait avoir du soleil, notamment au bord de mer. Quant aux températures, elles évoluent peu, puisque les températures restent fraîches près de la Manche, avec 14 degrés du côté de Saint-Brieuc, par exemple. Il fera un petit peu meilleur dans l'intérieur, avec 16 degrés à Baden, à Vannes et à Rennes. Jetons un coup d'œil maintenant sur le trafic qui arrive à grands pas pour vous dire qu'il n'y a pas de préoccupations essentielles sévères sur les cartes de la circulation en Bretagne. À noter, si vous êtes sur la Nationale 12 dans le sens Rennes-Saint-Brieuc, un véhicule qui est en panne, c'est à hauteur de passer vers le nord-ouest. Voilà pour ces voitures qui peut-être mal positionnées à risque de créer quelques soucis. Et puis si vous circulez au niveau entre Nozay et Jean, sur la route de Nantes, eh bien dans le sens Nantes-Rennes, il y a des objets sur la chaussée, c'est juste avant la limite avec l'Ille-et-Vilaine, et donc ces objets sur la voie peuvent également créer quelques embardées du véhicule. Restez vigilants.
On fait la route ensemble avec les remorques Camré, constructeurs et concessionnaires multimarques, remorques pour les professionnels et les particuliers, à Plerguet, Noyal-sur-Vilaine et sur www.remorque-camré.com.
Vous avez les questions ? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Et jusqu'à 10h, le 02 99 67 35 35 est à votre disposition pour vos petits problèmes avec vos plantations, qu'elles soient dans le jardin, dans des pots, des jardinières, dedans, dehors. Il connaît tout par cœur et il sera d'ailleurs le week-end prochain à la fête des jardins au château de Pommoriau à Trévenoc. On aura l'occasion d'en parler et on le salue comme il se doit. Bonjour Philippe. Munier.
Bonjour Daniel, bonjour à tous.
Voilà, un bonjour enjoué d'un jardinier qui va faire son possible pour répondre à tout le monde.
Absolument. Et d'un jardinier heureux parce qu'il y en a eu une belle semaine. Là, ça a permis de préparer pas mal le sol. Et je vais vous faire une petite confidence. Ça doit rester entre nous. Je plante mes patates cet après-midi.
Ah, voilà. Alors ça, c'est bon signe, auditeur, auditrice. Si Philippe Munier plante ses patates, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Vous avez les questions ? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Et on commence donc avec vos questions. C'est pas une question sur les pommes de terre, mais c'est Marcel qui est au Roc-Saint-André. Bonjour Marcel.
Bonjour Michel et Philippe. J'ai démoussé ma pelouse et puis j'ai plein de mousse. Qu'est-ce que je peux en faire? Je peux faire du compost ou quoi pour le potager?
Alors la mousse, ça fait un super compost. Hein. Moi, je suis un grand fanat de compost de mousse et j'utilise, je la garde d'ailleurs plutôt pour les plantes d'intérieur parce que c'est vraiment une mousse géniale pour toutes les plantes vertes.
D'accord, oui.
Mais vous pouvez aussi la mélanger avec vos mélanges pour les semis parce que ça allège énormément les mélanges pour les semis. Donc ça permet d'avoir un mélange beaucoup plus drainant dans lequel les racines des jeunes semis vont pouvoir mieux s'installer. Donc oui,
d'accord.
c'est un très bon produit. Faut surtout pas le jeter, faut surtout pas l'emporter en déchetterie.
Faut
le garder. Alors vous le compostez soit en mélange avec le reste, mais dans tous les cas de figure, ça améliorera votre compost.
Voilà.
D'accord. Merci bien.
Bonne journée, Marcel.
Merci.
Au revoir. Bon dimanche. Dominique est à Boulon. Bonjour Dominique.
Oui, bonjour à vous deux. Oui, voilà ma question. Est-ce que blanchir des arbres fruitiers, des rosiers, ça sert à quelque chose?
C'est-à-dire de mettre du bleu arboricole dessus?
Oui, c'est-à-dire que c'est de la chaux vive que j'ai éteint et j'ai fait une bouillie, quoi.
Alors oui, ça sert à quelque chose dans la mesure où en faisant ça, on va obstruer toutes les aspérités, le relief des écorces. Et on sait bien qu'il y a tout un tas d'insectes, il y a tout un tas de bestioles qui viennent pondre et se cacher dans les écorces. Donc ça va les empêcher de pouvoir s'installer là et donc de pouvoir éventuellement contaminer. Je pense aux pucerons particulièrement, les empêcher de contaminer vos arbres fruitiers. Donc ça sert à ça. Et puis le réchauffement climatique n'est pas encore suffisamment violent en Bretagne, mais dans le sud de la France, ça permet aussi d'éviter un échauffement excessif des troncs. Donc c'est plutôt intéressant, oui, soit pour les vieux rosiers greffés, vous avez raison de le rappeler, oui. Et puis pour les arbres fruitiers, oui, c'est pas une mauvaise solution du tout. Alors on peut le faire tout bêtement avec de l'argile, plutôt que de la chaux éteinte, ça marche tout aussi bien. Et puis par contre, la chaux a l'avantage aussi de faire fuir les fourmis, ce qui fait que les fourmis ont beaucoup moins tendance à grimper dans les arbres fruitiers pour aller traire les pucerons.
Ah, ça, c'est bon à savoir.
Et donc, dans les embranchements de l'arbre, des fois, il y a des mousses qui se déposent. Là. Il faut monter jusqu'à l'embranchement.
Oui, il vaut mieux monter effectivement jusqu'à la séparation des plus grosses branches, passer un petit coup de brosse douce, faut pas passer à la brosse métallique, ou alors une brosse métallique à poil très 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 souple, et en brossant délicatement pour enlever la mousse avant de mettre le lait de chaud. Il y a pas de problème, au contraire, c'est bien.
Et ben voilà Dominique, merci de votre question. Exactement, bon dimanche à vous. Gilles est à La Gouenière, bonjour.
Bonjour messieurs.
Alors Gilles, votre question.
Est-il encore possible de traiter un pêcher qui est en fleur avec de l'huile de sarriette?
Alors maintenant, tant qu'il est en fleur, non.
Non.
C'était bien avant, ça sera bien après. Pendant, c'est non.
Hein,
donc pendant la floraison, on laisse les abeilles venir faire leur boulot parce que les pêchers sont pollinisés par les insectes, donc il faut absolument ne pas faire fuir les insectes. Donc pendant la floraison, on fait pas et juste après, on peut faire.
Voilà. Merci à vous, Gilles, à La Gouenière. On a peut-être le temps, comme la question a été courte, d'accueillir Gérard, qui est à Saint-Jacques-de-la-Lande. Bonjour, Gérard.
Oui, bonjour. Je voudrais conserver des oignons de tulipes, parce que je les arrache avec le bulbe, de façon à mettre les fleurs après en vase, et n'ayant pas beaucoup de terre, je suis obligé d'enlever les bulbes, et je voudrais les garder pour l'année suivante. Comment puis-je les conserver ?
Alors la première chose qu'il y a à faire, c'est les arracher et les mettre en jauge.
C'est-à-dire dans la terre.
C'est-à-dire que vous les mettez dans un coin du jardin, pas forcément bien ensoleillé, ça on s'en fiche. Vous enterrez juste l'oignon et un minimum de partie du feuillage. Il faut surtout pas couper le feuillage, parce que le but du jeu, c'est que le feuillage se dessèche complètement, ce qui a pour effet de faire redescendre la sève à l'intérieur du bulbe et de préparer la fleur de l'année prochaine. Donc il faut surtout pas couper le feuillage, faites très attention à ça. Et donc effectivement, une fois qu'ils auront complètement desséché, on sera arrivé tranquillement vers la mi-juillet à peu près. À ce moment-là, vous pourrez couper le feuillage, nettoyer sortir les bulbes de la terre et les stocker dans un coin frais à l'ombre pour pouvoir les ressortir et les planter à partir du 15 septembre.
Ah oui, mais le problème, c'est que ça y est, j'ai coupé tous les feuillages pour les mettre en vase.
Et t'allais appeler Philippe avant de le faire.
Eh bien, merci, je saurai pour le prochain.
Voilà. Parce que vous allez avoir des bulbes qui ne pourront pas se régénérer, donc qui ne pourront pas faire l'année prochaine.
Ah, bien sûr, ils vont sécher, c'est complètement sec, j'ai essayé plusieurs fois, ça ne marche pas.
Bon, maintenant vous saurez en tout cas, c'est ça qui est bien. Merci Gérard, beaucoup. Bon dimanche, au revoir. On fait une petite pause et on retrouvera tout à l'heure Alain qui est envahi par du lierre.
Écoutons Stéphane Lebré, directeur général de MBA Mutuel.
On considère que être à l'ouest a un sens pour nos adhérents. Cette proximité, c'est à la fois une proximité géographique et une proximité intellectuelle. C'est-à-dire que nos adhérents, on les connaît bien, ils nous connaissent bien et on se comprend.
Proche de vos questions de santé, contactez MBA Mutuel. Avec 24 agences dans l'ouest et notre accueil téléphonique à Rennes, MBA Mutuel, c'est la garantie d'une vraie proximité. MBA Mutuel, qui vous protège d'aussi près? Comparez.
France Bleu Armorique, en Bretagne, près de vous.
Et c'est Michel Polnareff, maintenant, sur France Bleu Armorique, pour vous souhaiter un très bon réveil, si vous le faites maintenant, un bon petit déjeuner aussi, si vous y êtes. Et puis tout simplement, le jardin, ça reprend dans 3 minutes.
Holidays, oh holidays, c'est l'avion qui descend du ciel.
Michel Polnareff, Holidays, sur France Bleu Armorique.
Vous avez les questions? Il a la main verte. Philippe Meunier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
02 99 67 35 35. Il y a de la place hein, ce matin, je le signale, car je sais que souvent vous nous dites « Oh là là, on n'arrive pas à vous joindre, il y a beaucoup de monde ». Ce matin, il y a un petit peu de place, donc profitez-en, parce que ça ne va pas durer. Mais nous avons Alain qui est avec nous depuis le Haut-Corlay, dans la région de Quintin. Bonjour Alain.
Oui, bonjour, comment allez-vous?
Eh ben, on va bien, vous aussi?
Ça va, ça va.
Alors, vous êtes envahi, je crois.
Oui, voilà, j'ai acheté une maison récemment et donc j'ai deux pans de mur qui est envahi par du lierre et je voudrais m'en débarrasser.
Sans faire de mal aux pierres, c'est ça?
Sans faire de mal aux pierres, bien évidemment.
Alors, est-ce qu'il y a un truc?
Alors, en fait, tout dépend de si vous avez du temps ou pas. Si vous avez du temps, le plus simple, le moins fatigant et qui est le plus efficace, c'est de bien couper à la base les troncs, de les arracher. Même le lierre, ça casse comme du verre. Hein. C'est très fragile. Donc, on arrive très facilement à arracher. Et du coup, toute la partie qui est sur le mur, si elle ne s'est pas marcotée dans le mur, ça arrive, hein, malheureusement, mais ouais. Elle va dessécher et grosso modo, en un an de temps, ça se dessèche et après, ça vient tout seul. Hein. Si vous êtes pressé, par contre, il faut tout enlever à la main. Et là, c'est une autre histoire. Bon, c'est bon pour c'est bon pour les épaules, ça fait travailler les épaules, faire attention à, voilà, à travailler les épaules décontractées, mais ça prend du temps et c'est un petit peu fastidieux, mais c'est, voilà. Mais si vous avez le temps, simplement d'arracher les pieds et de laisser sécher, ils s'effondrent tout seul et, c'est, et ouais. Ça va.
Et il y a peut-être moins de risque de faire partir un peu les enduits ou les choses comme ça, des pierres, voilà. Peut-être.
Ouais. Le gros problème en fait, du lierre, c'est quand il est justement quand il s'est marcoté dans les murs et qu'il a raciné dans les murs, c'est que quand on le tue, eh bien, les racines ne sont plus. C'est elle qui remplace en fait le ciment et donc il n'y a plus de ciment, donc le mur s'effondre. Et souvent les vieux murs tombent parce qu'on a enlevé le lierre qui était dessus. Alors bon, là c'est toujours un petit peu la limite. Le lierre c'est génial quand ça pousse sur un mur bien enduit parce qu'il couvre et il protège le mur et c'est un isolant extraordinaire. Par contre dans les vieux murs mal protégés, quand ils se marcotent à l'intérieur, c'est une catastrophe.
Et voilà. Donc Alain, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Bon, très bien, merci.
Bonne journée à vous.
Merci à vous, au revoir.
02 99 67 35 35 Yolande avec nous depuis Dinard. Bonjour Yolande.
Bonjour messieurs. Je me permets de vous appeler parce que j'ai une inquiétude, c'est que je voulais savoir si les produits qu'on utilise en désherbant, mais les produits qui sont utilisés depuis longtemps mais qui sont aujourd'hui, il me semble, déconseillés. Je voulais savoir si on pouvait toujours les utiliser sans crainte, je crois pas.
Ah. Bah écoutez, moi je vais vous dire, hein, le Roundup, pour ne pas le citer, donc le fameux glyphosate, le produit phare de Monsanto, qui est commercialisé, si ma mémoire est bonne, depuis 1972, depuis 1976, je dis que c'est une cochonnerie. Donc je ne vais pas changer aujourd'hui d'avis, parce que en plus, maintenant, on sait que même Monsanto savait très bien, dans les années 2000, que leur produit était mutagène. Donc si vous voulez provoquer des mutations dans l'environnement et dans votre propre organisme, continuez d'utiliser, il n'y a pas de problème, c'est une cochonnerie, cancérigène, mutagène. Gène probable. Donc voilà. Voilà, faut quand même réaliser, faut se rappeler que les plantes sont des êtres vivants comme nous, qu'elles partagent le même patrimoine génétique que nous. Hein, l'ADN qui est dans les plantes, et c'est le même que celui qui est dans nos cellules. Et qu'à partir du moment où on a un produit qui tue ces plantes-là, forcément, si on en a qui nous tombent par accident sur nous, ou si on en ingère un petit peu, eh bien, c'est forcément mauvais pour nous aussi. Je veux dire, faut pas être scientifique de haut niveau pour comprendre ça. Donc si vous en avez, rapportez-le dans les déchetteries autorisées. Ce n'est pas n'importe quelle déchetterie parce que ce sont des produits dangereux. Donc certaines déchetteries sont équipées spécialement pour les recueillir. Vous vous renseignez auprès de votre collectivité qui vous le dira avec plaisir. Et puis si passez à des méthodes douces de jardinage, de l'herbe c'est beaucoup verte, c'est beaucoup plus joli que de l'herbe jaune. Donc il suffit de la tondre ou de lui passer une petite débroussailleuse et puis l'affaire est réglée.
Voilà, donc surtout vous...
Je peux poursuivre un peu, s'il vous plaît.
Bah non, parce qu'on a du monde, Yolande, également. En tout cas, si c'est sur le désherbant, il ne faut pas y toucher. Voilà, c'était surtout la réponse, vous l'avez compris, et importante, de Philippe Munier. Merci beaucoup, Yolande, on vous embrasse, on vous souhaite un bon dimanche à Dinard, et on rejoint Guy, qui est à Vannes. Bonjour.
Oui, bonjour à vous deux.
Alors, Guy, votre question.
Alors, ma question, j'ai acheté de la Gaultérie couchée en pot cet hiver, là.
Oula, qu'est-ce que c'est ça?
La Gaultérie.
Oui, oui.
Oui, c'est connu.
Oui, Daniel, il connaît pas, mais moi, non. Je connais, c'est bon.
Daniel,
on va lui dire à Daniel.
Ah, là, vous allez me dire ça.
Voilà, Daniel, il connaît bien. Il connaît bien Guy de Vannes, mais il connaît pas la Gaultéry.
C'est ça, c'est ça.
Bah oui, on peut pas tout connaître au plus.
Je l'ai en peau. Elle est très, très jolie. Mais j'ai l'impression qu'elle étouffe, quoi. Alors, est-ce que je peux la transplanter? Ou alors, qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle soit un peu plus heureuse, cette plante-là? Parce qu'elle est belle.
Oui, c'est une jolie plante, c'est une très jolie plante.
Très jolie,
on en tire une huile essentielle absolument extraordinaire hein, pour
exactement,
les problèmes musculaires. Voilà. Vous avez raison. Donc, le mieux de la Gaultéry, c'est qu'elle soit effectivement en pleine terre. Alors, c'est une plante qui aime bien la mi-ombre, hein, qui aime bien les sols acides, légers. Donc, il faut apporter. On en parlait en début d'émission. Si on a fait un compost de mousse, par exemple, la Gaultéry, c'est typiquement ce type de compost qu'elle adore, ou un sol amélioré, allégé avec ce type de compost. Sinon, on met un petit peu de tourbe. Hein. Je ne suis pas un grand fanat de l'utilisation de la tourbe. On trouve maintenant aussi en balle à des prix tout à fait intéressants de la noix de coco, des déchets de noix de coco qui sont très légers aussi, qui allègent les sols. Hein. Et c'est pareil parce que la Gaultéry a des racines très très fines, donc il faut qu'elle elle peut pas lutter dans des sols trop compacts. Donc il faut absolument alléger le sol. Moi j'ai fait la bêtise plusieurs années avant de comprendre que c'était pas la plante qui était mauvaise, c'était le jardinier. Donc maintenant elle est belle depuis que j'ai allégé le sol. Mais c'est vrai que j'ai un sol relativement compact. Elle arrivait pas à s'installer. Donc faut faire bien attention à ça. Mais si vous avez un sol un petit peu poreux, un peu léger et qu'en plus vous l'améliorez un petit peu, elle va se développer. Et là pour le coup, quand elle se met à ramper et qu'elle se plaît, elle se développe vraiment. Très agréable.
En pot, là, elle s'étouffe un petit peu, elle a vraiment besoin d'air, quoi.
Oui.
Pas de bruyère, pas de trucs comme ça.
Moi, je suis pas un fanat parce qu'il y a plein de tourbes là-dedans et que la tourbe m'embousille un lieu naturel pour créer un lieu artificiel. Donc, il y a quelque chose qui me choque un petit peu là-dedans.
Bon. Alors, ce produit de noix de coco, là, est-ce qu'on peut le trouver dans les jardineries?
Dans pas mal de jardineries, oui, tout à fait. Je ne peux pas vous dire sur Van si je ne les connais pas toutes, hein, mais il y en a certainement une ou l'autre. Voilà.
Je vais essayer donc de trouver ça et faire ce que vous dites.
Eh ben voilà.
À vous deux.
Merci.
Bonne journée.
Merci. Bon dimanche.
Salut,
à Van, Guy. Au revoir, Guy. À bientôt. On retrouve la musique et puis tout de suite après, Edwidge qui a ses Clivia et qui voudrait savoir comment les nourrir.
La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain.
Il y a des magasins, les remises, c'est plutôt plus tard, sur votre prochain achat par exemple. Et puis, il y a la paire qui vous offre des remises immédiates.
Jusqu'au 30 avril, ce sont les La Paireiades dans votre magasin La Paire, avec jusqu'à 1000 euros de remises immédiates sur tous les produits, même sur la pause.
1000 euros de remises immédiates. La paire, évidemment, il n'y en a pas deux.
La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Conditions sur lapaire.fr.
Bonjour, je suis Yasmina Rossi, j'ai 61 ans et pour moi, prendre de l'âge, ça apporte une beauté différente. Grâce à la gamme Expert Fondamental de Diadermine et à sa technologie inspirée d'un prix Nobel, ma peau est régénérée et plus lisse. Commandez votre échantillon gratuit sur le site diadermine-expert.fr. Si vous vous sentez jeune, ayez l'air jeune.
Jusqu'à 10h, bien sûr, vos questions jardinage au 02 99 67 35 35. Philippe Munier, notre expert jardin, qui va répondre dans un instant à Edwidge, Jean et Clara.
Optimacy, the future's just a place we've never been. History say, we're doomed to make the same mistakes between the decide. Really, I must choose a side. I guess I'll wake up smarter one fine day. Apologists say the weather's just a cycle we can't change. Scientists say we push those cycles way beyond. Delete. But hey, we'll all be grateful one day.
One Fine Day, c'était Sting sur France Bleu Armorique.
Jusqu'à 10h, Philippe Munier, notre expert jardin, répond à vos questions.
Avec Edwige, donc, qui est à Skitoureux, en Ille-et-Vilaine. Bonjour Edwige.
Bonjour monsieur.
Alors, vous avez des clivias.
Alors, j'ai deux magnifiques clivias.
Ça, je sais ce que c'est.
Plus de 20 ans.
Oh là là.
Cette année, alors, ils sont en fleurs, mais c'est incroyable. En 2 mois, je suis à la 3e fleur. Un est à la 2e et l'autre est à la 1ère.
Donc tout va bien, en fait.
Mais oui, mais justement, je voulais savoir si je peux déjà recommencer à leur mettre un petit peu d'engrais ou non.
Oui, oui, tout à fait. Pendant la floraison, on peut leur apporter de l'engrais. Alors, faites attention. En fait, pendant la floraison, il vaut mieux apporter des engrais très pauvres en azote. Et puis, dès que la floraison s'arrête, mettre un engrais un petit peu plus riche en azote. C'est pour ça que moi, j'aime bien avoir des engrais différents, en fait. Hein. C'est des produits qu'on trouve, en fait, souvent dans les magasins pour aquaponie, pour toutes les cultures sur eau. Et on trouve, en fait, un produit qui s'appelle croissance et puis un produit qui s'appelle floraison, et ça permet d'associer les deux et de permettre d'avoir des finesses de fertilisation un petit peu meilleures.
Ils sont magnifiques, et vraiment, c'est la première année où j'ai autant de fleurs, pas arrêté.
C'est très très beau le clivia, quand on le bichonne bien, c'est que vous faites ce qu'il lui faut, ce qui lui plaît, et c'est très bien.
Et vous avez la main verte, voilà, c'est ça.
Et il faut que je lui remette peut-être un petit peu de terre nouvelle, enfin un peu de terreau.
Alors quand ils auront fini de fleurir, au fur et à mesure qu'ils arrêtent de fleurir, d'abord vous enlevez des fleurs fanées.
Oui.
Hein, mais vous coupez pas les hampes florales tout de suite, hein, les tiges, je veux dire, vous les laissez se dessécher.
Oui, et par contre,
voilà. Et après, vous faites ce qu'on appelle un surfaçage. Donc, délicatement, je fais ça avec une fourchette, je gratte la terre de surface. Tout ce qui veut bien venir, sans que j'abîme les racines, je l'enlève et je remplace par un très bon support de culture, plante verte fleurie, et c'est reparti.
Eh ben voilà, merci Edwige.
Plante d'appartement fleuri, je veux dire.
Merci beaucoup, et puis vous nous souhaitez une bonne journée. Enfin,
merci, monsieur. Bon dimanche. La chapelle au Fitzmann, nous retrouvons Jean, bonjour.
Oui, bonjour messieurs.
Alors Jean.
Je vous appelle, j'ai mis des batavia et des laitues dans des godets, puis dans une caissette, et ils ont bien poussé et tout, mais les étioles. Monsieur Munier doit connaître ça, l'étiolement.
Oui, oui, tout à fait, mais c'est parce que il y a un manque de lumière. Donc,
ils sont
à
la lumière, pourtant ils sont sous des plastiques dans un garage, ils sont à de la lumière quand même.
Oui, mais il y en a pas. Si c'est dans le garage, il y a pas assez de lumière. Oui, c'est ça, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Alors, il faut faire très attention. Hein. Les salades, on a tendance toujours à trop les protéger. En fait, une graine de salade, surtout les salades de printemps, elle lève entre 9 et 12 degrés. Donc, c'est pas la peine de la mettre forcément dans un endroit très protégé. Faut juste les protéger la nuit en cas de gelée nocturne. Mais dans la journée, qu'elle soit au frais, ça leur fait pas de mal du tout. Donc, si vous pouvez, si vous avez le courage, si vous avez une vieille brouette ou je sais pas quoi, un truc à roulette, vous mettez vos cageots dans la brouette, et puis hop, le matin vous les mettez dehors et le soir vous les rentrez si vous voulez les protéger. D'accord. Mais mettez-leur beaucoup beaucoup de lumière, sinon elles vont la partie étiolée se développera jamais correctement et fera jamais une belle salade.
À la lumière du jour, quoi, carrément.
À la lumière du jour, carrément, absolument.
Vous savez pourquoi.
Pas trop le soleil tout de suite, parce que sinon, elles vont prendre un coup de soleil sur les feuilles étiolées. Hein, donc, au début, mettez-la plutôt nord-nord-ouest. Hein.
Surtout que le soleil va revenir à la chapelle au Fitzmann cet après-midi, donc pas trop le soleil. Voilà. Merci, Jean, pour votre question. Bon dimanche, au revoir.
On roule la tourbe autour après, quoi.
Oui, oui, tout à fait.
À bientôt, Jean.
Merci.
Au revoir. Bon dimanche.
Comme ça. Merci.
Il est resté avec Jean.
Bonne journée.
Bonne journée. Clara est à Saint-Avé, dans le Morbihan. Bonjour, Clara.
Bonjour, monsieur. Oui, moi, je vous appelle pour des violettes qui ont poussé dans ma pelouse. Et ça fait plusieurs années que je les arrache et je n'arrive pas à m'en défaire. Et cette année, j'en ai vraiment plein.
C'est joli, la violette.
Oui, déjà, c'est joli, la violette.
Mais il faut choisir entre la violette et la pelouse.
Ah.
Voilà, il faut faire un choix, c'est ça. Ouais. À la limite, on peut dire, je laisse toute la bordure un petit peu à l'ombre à la violette, et puis je garde toute la partie de la pelouse qui est plus à la lumière pour le gazon, parce que je pense que vous devez avoir votre pelouse qui commence à avoir un petit peu d'ombrage à certains endroits, et c'est là où la violette doit commencer à attaquer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que vous coupez trop court pour votre pelouse. Donc la violette, elle se développe par stolon, donc ça lui permet sans problème de développer son stolon et d'aller se raciner un petit peu plus loin. Donc elle avance tranquillement parce que vous lui laissez la place de se développer. Et puis la troisième chose, je pense que vous ne nourrissez pas assez votre pelouse, ce qui fait que la violette, elle est habituée, c'est le sol naturel pour elle, donc elle se développe correctement, alors qu'un gazon, c'est très gourmand, donc ça a besoin de beaucoup manger, que s'il n'a pas assez à manger, ben le gazon il périclite et la violette, elle se développe. Et puis pour finir, je pense que vous ne faites pas attention à l'acidité de la terre de votre jardin et de votre pelouse, et donc une manière de relever un petit peu le pH tous les automnes. La violette, là aussi, c'est une plante de sous-bois, donc aime bien un peu d'acidité, alors que le gazon n'aime pas l'acidité. Donc voilà, si vous faites tout ça, je pense que votre gazon sera beau et les violettes partiront toutes seules.
Il y a du boulot, hein, Clara, hein.
Parce que c'est
facile.
J'ai des ampoules plusieurs fois, les enlever. Et...
Bah oui, mais vous avez donné l'explication, c'est voilà. Le sol. Oui, il faut peut-être faire une analyse.
Qu'est-ce qu'il faut que je mette sur ma pelouse?
Il y a trois choses à faire. Maintenant, là, pile poil, en ce moment, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez mettre un très bon compost sur votre pelouse pour nourrir votre pelouse. Il faut nourrir la terre. La pelouse, c'est si vous voulez une belle pelouse bien verte, c'est gourmand. Il faut qu'elle ait à manger. Donc un très bon compost maintenant. Ensuite, toutes les tombes que vous faites, vous ne les faites jamais en dessous de 6 cm. Hein, vous faites très attention
à régler. Oui, je le fais plus haut, oui.
Voilà. Et puis, si vous tondez régulièrement, vous allez empêcher, en plus, si vous tondez régulièrement, vous allez empêcher les violettes de pouvoir envoyer leur stolon, hein, développer leur stolon. Vous les couperez au fur et à mesure. Et arriver au mois entre le 15 octobre et le 15 décembre, hein, donc en fin d'automne, début d'hiver, vous apportez au sol un carbonate de chaux à raison de maximum 15 grammes par mètre carré, c'est maximum, hein, 10 c'est plutôt pas mal, et de manière à relever le pH du sol, et si vous faites ça 2 années de suite, vous aurez un très beau gazon et vos violettes partiront toutes seules sans que vous ayez besoin de vous mettre à quatre pattes.
Voilà Clara, ce qu'il reste à faire, bon courage et bon dimanche à Rennes, c'est Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Claude.
Oui, bonjour monsieur. Alors voilà mon problème, il s'agit d'un olivier qu'un professionnel nous a mis en terre il y a une dizaine d'années. Il a un tronc assez important puisqu'il fait 1,50 m de circonférence, il part sur 3 branches qui font aujourd'hui à peu près 50 cm. Et bien voilà, donc je le taillais régulièrement tous les 2 ans. Là j'ai arrêté pendant 3 ans dernièrement et j'ai deux branches qui sont complètement superbes en pleine feuille. Et la troisième, eh ben, elle n'a pas une seule feuille.
Alors, qu'est-ce qui se passe?
Oui.
C'est parce qu'en fait, le sujet qu'on vous a planté, 1,50 m de diamètre, c'est un vieux sujet oui. Qui a été arraché en Italie ou en Espagne, qui a été balancé sur le bord de l'oliveraie pendant quelques temps, qui a été racheté par un gars qui l'a mis dans une poubelle de 150 litres quand Olivier a eu de la chance. Donc moi j'appelle ça, hein, on lui a coupé les branches, j'appelle ça du massacre à la tronçonneuse. Moi au bout du compte c'est arrivé chez vous, on vous l'a planté, j'espère pas pour trop cher, mais de toute façon ça a certainement pas dû vous coûter des clopinettes. Mais de toute façon, tout ce qu'il avait subi avant, c'est forcément pas terrible pour lui. Donc, il commence à vous le dire. Hein, y a pas grand-chose à faire. Je pense que le professionnel vous l'a planté dans les règles de l'art. Donc, votre sol doit être suffisamment drainant. Donc, ce n'est pas des problèmes d'étouffement des racines par des stagnations d'eau l'hiver. Mais de quoi qu'il arrive... son passé, hein, être arraché, être complètement amputé de toutes ses racines et de toutes ses branches, forcément, quelque part, ça laisse des traces. Et je pense que c'est la conséquence de ce type de traitement. Donc, de toute façon, une branche sur laquelle il n'y a pas de feuilles, alors, je ne sais plus, il y a un saint au mois de mai, donc il y a une date, traditionnellement, où on dit que si après cette date-là, s'il n'y a pas de feuilles, il faut couper la branche. Donc, attendez, je pense, pour un olivier, vous pouvez attendre sans problème jusqu'au 15 mai. Si au 15 mai, cette branche reste vide de feuilles, eh bien, coupez-la, ça ne sert à rien, de toute façon, s'il n'y a plus de feuilles dessus, l'arbre, il a déjà fait, lui, une croix dessus, il s'est déjà mis en protection par rapport rapport à cette branche-là. Donc vous coupez là aussi, il faut faire attention, hein, il y a des endroits pour couper dans une branche, on ne coupe pas n'importe où, il y a des règles de l'art là aussi. Donc soit vous le faites vous-même en vous renseignant, soit vous le faites faire par un pro, mais vous enlevez cette branche et malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Et faites surtout très attention au suivi quand même de cette plante, parce qu'avec ce qu'il a subi, il faut quand même faire des petits apports légers, parce que l'olivier, bon, c'est relativement gourmand, mais là, il a tellement peu de racines qu'il faut lui faire des petits apports de très bon compost, ça suffit en général largement. Il faut lui donner un petit peu à manger quand même, parce que le pauvre, avec ce qu'il a subi, il faut quand même qu'il ait de quoi survivre.
Voilà, Jean-Claude.
Juste, même s'il a 10 ans aujourd'hui de plantation chez nous.
Alors, je vais vous dire un truc. Un olivier qui a 10 ans, c'est même pas sûr qu'il soit pas déjà mort. Par contre, les oliviers pour produire sont taillés très sévèrement en permanence. Donc, une plante qui est taillée très sévèrement, comme les platanes qu'on voit élaguer sur le bord des routes, etc., ce sont des plantes qui font des réserves de nourriture dans leur bois. Et il se peut très bien qu'un olivier planté depuis 10 ans soit déjà mort, c'est-à-dire qu'il n'ait plus de racines vivantes. Par contre, il continue à faire des feuilles parce qu'il a du stockage de nourriture dans son bois. Et du coup, on a l'impression qu'il est encore vivant alors qu'il est déjà mort. Ça, c'est la beauté, la capacité des plantes justement à essayer de survivre, et surtout quand il y a eu des tailles très rigoureuses. Donc, j'espère pour vous que ce n'est pas le cas, évidemment, mais c'est possible.
Voilà. Bon, ben, vous avez les réponses. Jean-Claude, on souhaite que, en tout cas, ce soit pas ce diagnostic-là pour votre olivier. Bonne journée. On va faire une pause et retrouver ensuite Sylvain, Pierre et Marie qui ont encore des questions à poser à Philippe Munier.
Cette rénovation, finalement, c'était pas si compliqué, tu me diras. Avec la nouvelle laine de verre Isover, ça s'est fait presque tout seul. Il n'y a rien de mieux pour l'isolation thermique et phonique. Du 2 en 1, c'est génial. Et tiens-toi bien, cette nouvelle laine de verre est fabriquée en France. Et elle a même changé de couleur, regarde ça. C'est couleur crème et c'est tout doux. Dis donc, je t'embête pas avec mes histoires de laine de verre, moi.
Oh, pas du tout. Crème comment, tu disais ?
Crème, mais il n'y a pas que la couleur.
Isover, la laine de verre tellement révolutionnaire qu'elle en devient intéressante. Isover est une marque du groupe Saint-Gobain.
Tout l'esprit de la Bretagne sur France Bleu Armorique.
Allez, dans un instant, on va savoir comment semer une pelouse, raccourcir un magnolia et savoir aussi où trouver des plants de patates douces. Voilà les questions qui seront posées à Philippe Munier juste après Renaud et Axel Red.
Petit portoricain, bien intégré, quasiment new-yorkais. Dans mon building tout de verre et d'acier, je prends mon job, un rail de coke, un café.
Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre, jamais entendu parler de Manhattan. Mon quotidien c'est la misère.
Inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle. À 747, c'est explosé dans mes fenêtres.
Mon ciel si bleu est devenu orage lorsque les ponts m'ont rasé mon village. Deux étrangers.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Sol en gagne mon rêve américain.
Moi, plus jamais esclave des chiens.
Il t'imposait l'islam, le tyran.
Cela aussi jamais lié le courant.
Redevenu poussière, je serai pas maître de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement colosse au pied d'argile.
Les dieux, les religions, les guerres de civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations.
Sur France Bleu Armorique, Renaud et Axel Red.
Vous avez les questions ? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Et nous partons à Saint-Brieuc avec Sylvain qui est avec nous. Bonjour Sylvain.
Bonjour Philippe. Voilà, je...
Je m'en vais.
Ah oui.
Je vous laisse.
Je voudrais vous poser une question par rapport à un terrain, enfin une pelouse que je voudrais faire au mois de septembre, octobre, sur un terrain qui est assez argileux. Et j'ai rajouté à peu près sur ce terrain argileux, j'ai rajouté à peu près 30 cm de terre végétale. Et je voudrais savoir ce qu'il faut que je mette en attendant de semer la pelouse au mois de septembre. Est-ce qu'il faut mettre un engrais vert, qu'est-ce qu'il faut mettre avant de pour éviter que les mauvaises herbes poussent pendant l'été ou le printemps et l'été?
Bah oui, il faut absolument mettre un, comment dirais-je, prendre la place pour éviter que ça soit les plantes sauvages qui la prennent.
Voilà.
Donc vous pouvez passer soit par de la moutarde, soit par du sarrasin, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, de la facélie éventuellement, hein, de manière à vraiment ça travaille le sol. En plus, ce sont des produits qui ont des enracinements très profonds. Hein, on les appelle tous les trois des charrues végétales. Donc ça permet de bien travailler le sol, de bien l'améliorer. Il faut absolument évidemment tout couper, tout détruire avant les graines, parce que sinon vous aurez plein de petites graines dans votre gazon. C'est une bonne idée d'ailleurs de faire un gazon à l'automne, hein. C'est la meilleure période pour faire les gazons, septembre-octobre, c'est vraiment la meilleure période. Et du coup, une fois que vous aurez détruit votre engrais vert, vous pouvez pour affiner le lit de semences, donc travailler juste en surface et faire ce qu'on appelle une technique du faux semis. Donc vous faites un premier travail du sol en surface et donc toutes les herbes, les graines présentes là vont dire ça y est, il va semer et on va pouvoir se développer. Et crac, vous ne semez pas, vous attendez un petit peu. Donc toutes les herbes vont se développer. Et là, vous refaites un petit travail en surface, et bien en surface, hein, faut pas remonter d'autres graines. Un travail en surface de destruction de cette première génération de plantes sauvages. Et du coup, juste après, vous faites votre semis et vous avez déjà enlevé quasiment 80% des plantes enquiquinantes.
Et voilà l'astuce.
Bon, et la moutarde, donc, il faut la couper régulièrement ou
Non, vous la laissez grandir. Dès qu'elle elle commence à fleurir, vous la dégradez. Vous la broyez. Alors vous avez le choix, hein, ça peut être facélie ou sarrasin, et vous pouvez même mélanger les trois. Si vous semez à partir de dans une dizaine de jours, vous pouvez mélanger les trois sans problème.
Eh ben voilà. Période,
Sylvain, voilà. Allez-y en tout cas, bon courage à vous et merci de votre question. Et on salue les Briochins. Pierre est dans la Manche, entre Granville et Avranches, à Sartilly. Bonjour.
Bonjour à vous.
Alors Pierre, question. Oui, on vous écoute, c'est à vous de poser votre question.
Moi, c'est pas un problème. J'ai un magnifique magnolia qui a à peu près 8 ans, mais qui prend de l'envergure et surtout de l'altitude. Et j'ai peur qu'il arrive au ciel avant moi. Hein. Donc je voudrais le tailler et le raccourcir un peu.
Alors, au témoin d'un doute, c'est pas un magnolia grandiflora. C'est pas le magnolia à feuilles persistantes.
Non.
Non, d'accord. Parce que le magnolia grandiflora, donc à feuilles persistantes et à floraison estivale, c'est un arbre, il faut le savoir, ça monte à 25 mètres, donc vous pourrez faire tout ce que vous voulez, de toute façon, il aura envie d'aller à 25 mètres. Si c'est des magnolias à feuilles caduques, c'est plus des grands arbustes que des arbres, hein, c'est
s'il monte à 6-7 mètres. D'ailleurs, il n'a pas un tronc, il a plusieurs branches qui partent du pied, mais qui grossissent et qui montent, quoi.
Alors, il faut quand même savoir que les magnoliens n'aiment pas trop les tailles. Hein, ça, ils ont du mal à cicatriser, en fait. C'est donc, tailler, c'est, on peut le faire, mais comme tous les arbres qui, ou arbustes qui n'aiment pas la taille, il vaut mieux toujours tailler petit, c'est-à-dire toujours anticiper, plutôt que d'arriver en pompier en disant « Ah, ça y est, il est trop grand, il faut que je le coupe. » Parce qu'à partir du moment où on commence à attaquer du gros bois, bah, la cicatrisation se fait mal, donc il y a un risque de pénétration de champignons ou d'attaque par des ravageurs, et donc du coup, de tout d'un coup, voir une branche dépérir ou des choses comme ça. Donc oui, vous pouvez le faire, et si vous le faites, c'est juste après la floraison, de manière
voilà, à ce que... Voilà, elle est en fleur actuellement, c'est pour
voilà.
ça que...
Voilà, donc du coup, c'est, ça lui permettra étant en sève de mieux cicatriser, mais il faut savoir que si vous le faites, faut le faire au mieux, faut pas mettre de cicatrisant, mais faut faire une coupe légèrement en biais pour que l'eau de pluie s'évacue. Vous pouvez éventuellement cicatriser avec de la purée de racines de consoude, qui est un très bon produit de cicatrisation, ou de l'argile qui se décrochera quand ça sera cicatrisé, mais tous les produits très plastiques ou goudronneux, ils ont le gros inconvénient de faire en fait, de favoriser le développement des champignons au lieu de le bloquer.
Ouais, on enferme le loup dans la bergerie, quoi.
Absolument.
Voilà, eh bien, écoutez, bon merci. Courage. Au revoir,
merci,
Pierre.
Bonne après-midi.
Eh oui, au même fin de matinée, mais on peut commencer l'après-midi si on veut. Marie est à Vannes, bonjour. Marie, allô. Allô, Marie est partie. Bon, bah on va passer à Robert, alors, qui est à Pont-Orson. Bonjour, Robert.
Bonjour, messieurs. Voilà, j'ai deux petites questions à vous poser. J'ai une pelouse qui est magnifique, mais elle est envahie de pissenlits. J'en ai marre. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que j'ai commencé à les arracher, mais j'en vois pas le bout. C'est par centaines, hein.
Alors, est-ce que vous avez entendu tout à l'heure notre auditrice qui avait des problèmes avec des violettes sauvages dans sa pelouse, non?
Non.
Vous n'étiez pas à l'écoute.
J'étais pas en ligne encore, non.
Eh ben, voilà, ça va être la même chose. Alors, effectivement, à partir du moment où on taille trop ras son gazon, le pissenlit, c'est une plante à rosette, c'est-à-dire une plante qui a besoin de s'étaler, c'est un vrai capteur solaire, donc si le gazon est tondu très ras, ça lui permet de se développer ses feuilles au-dessus du gazon, et donc de se développer au détriment du gazon. Plus vous allez monter la hauteur de votre tondeuse, plus les feuilles de pissenlit auront du mal à s'installer sur le gazon, et donc plus le pissenlit sera en situation désagréable, et gazon en situation de force. Hein, c'est dans un gazon, dans la nature, c'est un petit jeu de
parce que moi, j'aurais tendance à couper court, quoi, pour que ce soit propre. Alors, si je suis tranquille deux jours, mais ça recommence.
Ben oui, ben évidemment, plus vous coupez court, plus vous favorisez le pissenlit. Donc si vous êtes envahi, c'est normal. Plus vous coupez haut, haut c'est pas sale, hein. Haut c'est vous pouvez avoir une belle grosse moquette épaisse à 6 cm. Je dirais même plus, une pelouse à 6 cm, elle est tellement bien parce que elle se nourrit correctement, donc elle est belle, elle est verte, elle est dense, elle est saine parce que elle est bien nourrie. Faut pas oublier que les plantes se nourrissent avec la sève qu'elles fabriquent dans leurs feuilles. Donc si vous coupez les feuilles du gazon très court, il peut pas se nourrir, donc vu qu'il est pas mal nourri, il est en mauvaise santé. Donc il est aussi supplanté par les plantes qui sont des plantes sauvages adaptées au sol. Donc si vous voulez vraiment favoriser votre gazon, faites ce qu'il faut pour qu'il soit bien, tondez-le à 6 cm, apportez-lui là aussi un très bon compost maintenant pour qu'il soit bien nourri, qu'il puisse se développer. Bon là, le pissenlit est aussi gourmand que le gazon, donc tout le monde va en profiter, mais c'est pas grave, si vous tombez à 6 cm, le pissenlit aura du mal. Et puis compenser le pH aussi à l'automne, parce que de toute façon le pissenlit aime même les terres un petit peu, quoi que non, le pH il s'en fout aussi d'ailleurs, bon, mais de toute façon ça fait du bien au gazon lui d'avoir un pH aux alentours de 6,8, et après, les gros pissenlits qui sont déjà installés, vous les arrachez. Je vous signale qu'il existe en jardinerie, alors pas pour les très gros pissenlits, mais pour des jeunes pissenlits qui se développent, il existe un petit outil, je ne citerai pas la marque parce que je n'ai pas de pub à faire, mais il y a un petit outil très simple qui permet d'arracher les jeunes pissenlits sans avoir à se baisser. Et ça, c'est vachement agréable à partir d'un certain âge. Donc oui, il y a des solutions, mais la solution numéro un, c'est lever la hauteur de tonte et vous aurez un très beau gazon en très bonne santé.
Voilà ce qui vous reste à faire. Robert, merci pour votre question, et puis voilà, rectifiez le tir et tout va bien se passer. Juste, on n'a pas retrouvé Marie, mais j'avais quand même sa question, Philippe, elle voulait savoir où trouver des plants de patates douces, et puis j'imagine, est-ce que, comment on fait pousser tout ça peut-être?
Alors depuis quelques années, hein, ça fait 2-3 ans maxi, on trouve des plants de patates douces dans toutes les jardineries parce qu'il y a une entreprise Solognotte qui a développé des variétés spécifiques pour l'Europe occidentale. Il y a 3 ou 4 variétés de couleurs différentes, une blanche et une rouge, une orange et une jaune, je crois, un truc comme ça. Vraiment, donc des couleurs différentes, donc des goûts différents. Et on trouve des plants dans les jardineries, mais en général... pas avant le 15 avril, parce qu'il faut vraiment c'est comme pour les pommes de terre, il faut vraiment les mettre en pleine terre que quand la terre est assez réchauffée, qu'il n'y a plus de risque de geler, hein, et sachant que c'est une plante, les patates douces développent un feuillage rampant assez impressionnant, donc si vous ne voulez pas que ça prenne toute la place, il faut mettre en place des grillages pour que la feuillaison monte sur le grillage et ne prenne pas trop de place au sol, sauf si on veut faire un couvre-sol avec, mais voilà, c'est plutôt très intéressant, ces plants-là. Ça fait des petites patates douces. Moi, j'ai eu des trucs, bon, pas énormes, mais par contre, très savoureux, très goûteux.
Voilà, donc, elles sont adaptées à nos climats et c'est ça qui est bien. Merci donc à vous toutes et vous tous pour vos questions. Avant de se quitter, on a quand même un joli rendez-vous à noter sur l'agenda. C'est la fête des jardins, Philippe.
Alors oui, il y a plein de choses hein, à mettre à l'agenda. Alors si vous avez des infos sur cette fête-là, dites-le moi.
Alors c'est au château de Pomorio à Trèvenoc les 8 et 9 avril.
Ah oui, c'est la semaine prochaine, d'accord.
Voilà, c'est ça, avec les pépiniéristes et il me semble même que vous intervenez plus ou moins, non, dans ce...
Non, j'étais la dernière fois, mais c'est pas grave, hein, ce qui n'empêche que c'est bien quand même. Hein.
Voilà.
Mais pour ce week-end, je voulais vous dire qu'il y en a une autre. Hein, à la MFR de Messac, ils ont le Pays Art, hein, donc c'est la deuxième édition de cette manifestation, donc avec des pépiniéristes, des paysagistes, donc voilà, les maisons familiales rurales, hein, on sait qu'ils forment donc des spécialistes, hein, des très bons spécialistes, et là ils invitent à la MFR d'autres professionnels pour montrer l'évolution de l'art des jardins, parce que c'est un art, donc ça permet aussi de rappeler que le jardinage c'est une passion mais c'est aussi un métier, et donc je vous invite à y aller demain, hein, et je pense que c'est très très intéressant, et puis c'est organisé avec l'arboretum, je ne me souviens plus son nom, je ne l'ai plus sous les yeux là, de Guy Prix, et puis la société d'horticulture d'Ille-et-Vilaine, voilà. Donc vous voyez, que du beau monde, donc voilà, il y a cette petite balade là, et puis il y a aussi plein de choses, hein. Il y a le printemps du développement durable qui est organisé par Saint-Brieuc-Armor Agglomération et ses 32 communes, ça a commencé hier, 1er avril, et puis ça va durer quasiment un mois, et dans le même temps vous aurez aussi le festival Terre Arter organisé par le centre culturel de Plérin avec l'association de services environnement de la ville de Plérin. Là aussi, c'est un festival qui commence hier et qui finira le 14 mai. Et j'aurai dans ce cadre-là le plaisir de donner une conférence à Plérin le 13 avril sur l'arbre, parce que c'est sur le thème de l'arbre, donc l'arbre, l'arborescence, le développement, etc. Et moi, je parlerai donc de la